Nous sommes toujours dans le témoignage. C'est, comme je dis déjà, je répète, c'est une église qui n'évangélise pas, est une église morte. Et un chrétien qui ne témoigne pas, comme il est la plus petite fraction de l'église, il est un chrétien mort, spirituellement. Il est toujours converti, il est toujours né de nouveau, il n'a pas perdu son salut, c'est pas ce que je veux dire. Mais sa vie chrétienne est une vie qui est morte. Il n'est pas vivant pour Dieu. Quand nous lisons la vie du Seigneur Jésus-Christ, eh bien nous nous rendons compte que toute sa vie est orientée vers une seule chose, donner sa vie pour un monde perdu. On a voulu le faire roi, il n'a pas voulu. On a dit, mais personne ne se cache s'il veut être vu. Et il s'est caché. Il allait vers Jérusalem et il a averti ses disciples. Il leur a dit, je vais à Jérusalem, mais je vais mourir. Et les disciples ont été scandalisés. Ils ont dit, mais non, tu ne vas pas mourir. Il dit, si, il faut que je meure. Il a donné sa vie pour nous, pour nos péchés. Notre témoignage. C'est une dette que nous avons, non seulement envers le Seigneur Jésus-Christ, mais envers le monde perdu. C'est ce verset de la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui a donné sa vie pour eux. Ce verset, c'est une flèche qui nous montre la direction dans laquelle nous devons aller. C'est le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour tous. Tous sont morts dans leurs péchés. Et ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, mais ils vivent pour celui qui a donné sa vie pour eux. Donc, nous devons agir de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a agi. Il est venu pour donner sa vie, pour le salut des âmes. Nous devons aussi donner notre vie pour le salut des âmes. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont à plein temps pour témoigner, pour évangéliser. Ça, c'est une vérité, il n'y a aucun problème. Mais chaque chrétien, chaque personne née de nouveau, a une dette, une responsabilité, une dette d'amour. Non seulement envers celui qui a donné sa vie pour lui, mais pour ceux qui sont morts dans leur péché et qui ne connaissent pas encore Dieu. C'est donc quelque chose de très important. Ce n'est pas une idée sur laquelle on passe ou qui se discute. C'est un chrétien témoigne. Et il témoigne par sa vie. Il ne faut pas que sa vie soit en contradiction avec ce qu'il dit. Mais il témoigne aussi par ses paroles. Comment entendront-ils si personne ne leur annonce l'évangile, hein? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Vous connaissez ce verset de l'Épître aux Romains, chapitre 10. C'est très très important donc de témoigner, de parler de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il y a une autre raison. C'est que beaucoup de gens se plaignent de ce qui se passe dans ce monde. Et j'entends beaucoup de chrétiens parler négativement du gouvernement, des pratiques qui se font dans le monde, etc. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est une grande vérité. Ce monde est perdu. Il n'est pas autre chose que perdu. Il est sous la domination de l'ennemi de Dieu. Si Dieu est saint, Satan est corrompu. Il est totalement corrompu. Il n'y a aucun être dans l'univers aussi pervers que Satan. Et ce monde est sous la domination de Satan. Et Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, limite l'action de Satan. Il ne lui donne pas les pleins pouvoirs. Il n'exerce pas tout ce qu'il pourrait faire de mal sur la terre. Dieu le limite et ne lui permet pas d'aller au-delà d'une certaine limite. Heureusement pour nous. Parce qu'il y a dans les suggestions de l'ennemi des immensités de perversion que c'était inimaginable. Et nous, eh bien nous sommes là comme la lumière du monde, au milieu des ténèbres. Et si nous n'annonçons pas l'évangile, ne nous plaignons pas de ce que le monde est corrompu. Parce que le monde est corrompu, parce que c'est le monde, parce qu'il est sous la domination de Satan. Et si les chrétiens n'annoncent pas l'évangile, eh bien, le monde ne changera pas. On peut le moraliser, on peut apporter une certaine dose de civilisation, si on peut dire, hein, mais ça ne changera pas les comportements, ça ne changera pas les mentalités, la manière de vivre des gens. Ce qui change la manière de vivre, c'est un cœur nouveau. C'est un changement de vie. C'est une nouvelle naissance. C'est comme cela que les gens changent. Alors, ne vous plaignez pas de ce que le monde agit d'une certaine manière parce qu'il est le monde. Notre responsabilité à nous, elle est entière. C'est d'annoncer l'évangile, de parler de ce que Jésus-Christ a fait pour nous et ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour eux. Alors non seulement nous devons annoncer l'évangile, mais nous devons intercéder pour un monde perdu. Et c'est ce que Dieu attend, c'est d'une part des intercesseurs, des personnes qui luttent dans la prière pour gagner des victoires sur Satan, dans la prière. C'est et des personnes qui témoignent avec foi, avec zèle, avec conviction, pas avec un esprit de prosélytisme. L'esprit de prosélytisme est négatif, il est mauvais. Nous avons ce qui doit nous motiver, c'est l'amour des âmes. C'est l'amour de Christ nous presse. C'est le début du verset que je vous ai cité tout à l'heure. L'amour de Christ nous presse, car nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Nous sommes pressés par l'amour des âmes. Et si vous n'avez pas l'amour des âmes, alors priez et demandez-le à Dieu. Parce qu'il n'est pas inné. Il n'est pas dans notre comportement naturel. C'est pas quelque chose que même nous avons à la nouvelle naissance. C'est nous avons la capacité d'aimer les gens, mais nous devons prier pour avoir cet amour, l'amour des âmes. Et il y a eu des hommes et des femmes de Dieu qui ont eu l'amour des âmes, un amour intense, qui ont perdu leur vie pour les âmes perdues, qui ont gaspillé leur vie. Je me rappelle quelqu'un qui, c'était Félix Neff, il est allé dans les montagnes des Alpes annoncer l'évangile par les froids les plus rudes, hein, parce que c'est des endroits en hiver, il fait très froid. Il allait dans la neige, il allait frapper au volet des maisons, on lui ouvrait et hop, il y avait une réunion qui s'installait, on priait, il annonçait l'évangile, il prêchait et il repartait. Et vous savez combien de temps a duré sa vie ? 29 ans. À 29 ans, il est entré chez lui. Il croyait qu'il allait repartir et il est mort, tout simplement. Il est mort à 29 ans. Il a donné sa vie. Il a perdu sa vie. Quelqu'un aurait pu dire, oui, mais il aurait pu avoir se marier, il aurait pu avoir des enfants, il aurait pu avoir ceci, il aurait pu... Tout cela, il a méprisé pour une seule chose, annoncer l'évangile aux âmes perdues. Et il l'a fait jusqu'à la mort, jusqu'au sacrifice de sa vie. Et je pourrais citer des personnes qui sont allées dans tous les pays du monde pour annoncer l'évangile et qui ont gaspillé leur vie, selon le monde, pour annoncer l'évangile. C'était l'amour des âmes. Si on n'a pas l'amour des âmes, on ne va pas dehors, hein. C'est comme disait un frère en Christ, c'est moi pendant une partie de ma vie, j'ai pris pour moi ce verset des Proverbes où il est dit « il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues ». Il n'allait pas annoncer l'évangile parce qu'il avait une trouille terrible, excusez-moi le mot. Il avait une peur des inconvertis, donc il n'allait pas. Mais c'est comme s'il avait rencontré un lion. Mais il y a un monde perdu. Et ce qui nous motive, ce qui doit nous motiver, c'est l'amour des âmes. C'est bien sûr, il y a le devoir. Dieu nous appelle à le faire et nous obéissons et nous le faisons par obéissance aussi. Mais nous le faisons parce que nous avons l'amour des âmes. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Et ça, c'est quelque chose que nous devons demander à Dieu. Ce n'est pas dans l'être humain naturellement. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est l'amour de Christ. Ce n'est pas un amour que nous avons pour les âmes. c'est l'amour de Christ. C'est cet amour. C'est Christ nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Je me rappelle le jour où j'ai compris cela, j'étais brisé. Ça m'a démoli complètement. Je suis tombé à genoux. J'avais lu le verset de Galates 2:20, j'avais appris par cœur. Et puis un jour, j'ai lu dans un livre de méditation juste une fraction de ce verset. Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai compris là l'amour de Christ pour moi. Et je suis tombé à genoux, je peux vous dire. Ça m'a brisé complètement. J'ai compris que Dieu m'avait aimé. Le Fils de Dieu m'avait aimé. Il y a un moment où on comprend ces choses-là. Il y a un moment où l'amour des âmes devient intense et nous comprenons que les âmes sont perdues, qu'il n'y a aucune solution dans ce monde en dehors du sang de Jésus-Christ pour le salut des âmes. Il n'y en a pas une autre. S'il y en avait une autre, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils. Parce que le drame de la croix est un drame immense. C'est quelque chose de terrible. C'est le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous. S'il y avait une autre solution, Dieu nous l'aurait donnée avant, parce qu'elle serait passée avant. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner son Fils pour le salut des perdus. Il n'y avait pas de plus grand amour. C'est Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. C'est donc quelque chose de très très important de comprendre que nous devons avoir l'amour des âmes, l'amour des perdus. Et il faut que nous demandions à Dieu, que nous cherchions, que nous convoitions, excusez-moi le mot, j'ai pas un meilleur mot, c'est pas un bon mot, mais c'est le seul que j'ai à l'esprit maintenant, mais qu'on désire intensément d'avoir l'amour des âmes. Et c'est prions pour l'avoir soi-même et prions pour que les autres l'aient, l'amour des âmes. Et c'est comme cela que vous pouvez aller annoncer l'évangile à n'importe qui. N'importe qui. Vous avez de la compassion. Vous les voyez. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il regardait les foules, les gens voyaient une masse de gens, un troupeau humain. Et le Seigneur Jésus voyait des brebis sans berger. Il était ému de compassion pour eux. C'est combien de fois vous lisez dans les évangiles le Seigneur Jésus ému de compassion pour eux ou pour elle ou pour lui. C'est le Seigneur Jésus ému de compassion. C'est cet amour que nous devons avoir pour les âmes perdues. Si vous avez une autre motivation, vous allez être rebuté dans certaines circonstances. Celui-là, il ne m'est pas sympathique. Celui-là, il est trop dur. Celui-là, je ne le tolère pas. Celui-là, il a un aspect qui me convient pas. Celui-là, il n'est pas ceci. Celui-là, il est ça. Vous allez trouver des multitudes. Votre amour sera, votre évangélisation sera sélective. Mais dès que vous avez l'amour des âmes, alors une âme perdue, c'est une âme perdue. Quel qu'il soit, où qu'il soit, si bas tombé qu'il soit, aussi élevé qu'il soit, vous avez l'amour des âmes. Et vous savez, il y a eu des personnes qui ont été... je me rappelle de cet homme, il s'appelait Dawson Trotman. Peut-être vous avez jamais entendu parler. Mais M. Smainville a dû entendre parler. C'est les navigateurs. C'est lui qui a créé l'association des navigateurs. Bon, maintenant, ça est beaucoup moins connu que dans le passé, mais c'était une méthode de mémorisation des versets de la Bible. Mais c'était un homme qui témoignait constamment, partout. On pense qu'il a amené au salut à peu près 6 millions de personnes. Et quand il est décédé, le journal a marqué, un journal aux États-Unis a marqué qu'il est mort pour sauver une âme de plus. Parce qu'il y a une jeune fille qui voulait se suicider. Elle s'est jetée d'un pont. Et lui, il a sauté du pont pour aller la chercher. Et comme c'était un homme âgé, eh bien, il n'a même pas regardé à ce qu'il avait de l'âge. et qu'il n'était plus en condition pour nager ou pour. Il a sauté après une âme qui se, une personne qui allait se noyer pour la sauver. Et il s'est noyé lui-même. C'est sauver une âme, même au prix de sa vie. C'est cela l'amour des âmes. Et quand un chrétien est animé par l'amour des âmes, par la passion des âmes, alors il est changé, il est différent. C'est un gagneur d'âmes. C'est quelqu'un qui désire le salut des âmes plus que tout. C'est qui n'est pas satisfait parce que les gens sont intéressés à l'évangile, mais c'est jusqu'à ce que les âmes soient sauvées. Il ne se contente pas des personnes qui sont pas loin du royaume de Dieu. Pas loin ou loin, c'est la même chose, hein. C'est comme avoir pris son train ou avoir raté son train ou l'avoir presque attrapé. C'est comme cela. Ah ben, un jour, j'ai presque réussi un examen. Je l'ai raté de 2 points. Ah oui, mais j'ai presque réussi. Mes parents étaient tellement contents qu'ils m'ont offert un cadeau. Et oui, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je le rate de si peu. Donc, je méritais un cadeau. Mais l'avoir presque réussi ou l'avoir raté, vous savez, c'est la même chose, hein. Pour moi, c'est comme quelqu'un qui connaît presque la musique. Il va faire casser les oreilles des gens, c'est tout, hein. Je préfère qu'il joue pas. Je préfère quelqu'un qui ne joue pas de la musique que quelqu'un qui la joue mal. C'est taper sur un piano parce que on connaît quelques accords, c'est pas joli. C'est ce que l'on aime, c'est quelqu'un qui joue bien, qui a appris la musique, c'est ou quelqu'un qui connaît presque les mathématiques. Je sais presque faire les additions. Ben, excusez-moi, mais ça veut dire que vous ne savez pas les faire. Mais quelqu'un qui est presque sauvé, c'est quelqu'un qui est perdu. Il va aussi certainement en enfer que celui qui est rebelle à Dieu, qui blasphème, etc. C'est un gentil inconverti. Alors, les chrétiens se satisfont de gens sympathiques, qui sympathisent avec l'évangile. Tandis que le gagneur d'âme, ça ne satisfait pas ça, hein. C'est la dernière étape. Mais il n'est pas encore arrivé. C'est le gagnant d'âme, il va jusqu'au bout. Il a la passion de l'âme, des âmes perdues. Il veut les voir sauvées. Il veut que les gens passent de la mort à la vie. C'est quand les gens ne sont pas sauvés, il n'est pas heureux. Ce qui le réjouit, c'est de voir des gens passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Christ, du royaume de Satan au royaume de Christ. Il y a quelque chose qui a bouleversé sa vie, qui a changé sa vie. Et je peux vous dire une chose, ça ne s'invente pas. Pour avoir l'amour des âmes, eh bien, il faut commencer par témoigner, parler aux âmes et demander à Dieu constamment, Seigneur, donne-moi l'amour des âmes. Si vous demandez l'amour des âmes avant de témoigner, vous ne l'aurez jamais. C'est parce que Dieu ne donne pas ce que l'on ne cherche pas vraiment. Vous allez chercher dans les mots, mais vous ne cherchez pas dans la pratique. Donc il faut parler aux âmes, il faut s'intéresser aux âmes perdues et demander à Dieu l'amour des âmes perdues. Et à ce moment-là, eh bien, il vous le donne. C'est dans ces conditions-là. Nous sommes souvent des théoriciens. On attend les choses avant de les pratiquer. Mais Dieu désire que nous pratiquions. Et à ce moment-là, eh bien, il nous donne la capacité. C'est comme les enfants. Je me rappelle ma petite fille, ma petite Sarah. On avait un frère en Christ qui était pédiatre dans l'église de Perpignan. Alors il est arrivé pour nous voir et il a vu le bébé. Et c'est lui qui lui a fait les tests le premier test que l'on fait à un bébé. Et un nouveau-né, qui avait 2, 3 jours, il a pris et il a mis debout. Et il a fait comme si juste touché avec ses pieds le lit et il y avait le réflexe de la marche. Ah, il a dit, le bébé est en bonne santé. Elle a le réflexe de la marche. C'est pourtant un nouveau-né. C'est la marche, c'est dans quelques mois. Mais c'est inné. C'est dans le nouveau-né. Ça fait partie de lui de marcher. Et dans un chrétien, témoigner, ça fait partie de la vie chrétienne. C'est le réflexe de la vie chrétienne. Le chrétien nouveau-né, eh bien, il témoigne. S'il est vraiment né de nouveau, il a ce désir de parler et de dire aux autres, maladroitement, je vous le concède, c'est pas toujours la bonne manière, etc., etc. Et puis, il se décourage. Mais les premiers réflexes dans la vie d'un chrétien, c'est de faire connaître Christ. Faire connaître Christ. Je peux vous dire, quand je suis né de nouveau, j'aurais chanté les cantiques, même si la bouche fermée. Hein. Je chantais les cantiques à tue-tête. Hein. Et les gens qui travaillaient avec moi venaient me voir et me demandaient qu'est-ce qui m'arrivait. Et je disais comment le Seigneur Jésus m'avait sauvé et comment j'étais né de nouveau. Il n'y avait aucune honte, rien. Christ était devenu mon sauveur. C'est le réflexe du témoignage. Dans le chrétien, il y a le réflexe du témoignage. Et si le chrétien perd ce réflexe du témoignage, il est en danger. Sa vie chrétienne se refroidit, se ternit, et il n'est plus un chrétien qui va de l'avant et qui marche, qui gagne des âmes. Quelqu'un qui peut dire, dans ma vie, eh bien, il y a des âmes sauvées. J'ai témoigné, j'ai parlé, et Dieu, par mon témoignage, a sauvé des âmes. C'est quelque chose de merveilleux, vous savez. C'est le témoignage. Un chrétien qui est authentique est un chrétien qui témoigne. Voilà, je voulais arrêter là.